Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, Pascal Perrineau est notre invité aujourd'hui. Signe particulier, les événements politiques scandent sa vie. Politologue, professeur émérite à Sciences Po, il étudie particulièrement l'extrême droite en France depuis son émergence dans les années 80. Avec lui, quelques 50 ans de vie politique dont il a été le témoin nous contemple, la politique qu'il observe avec passion et dont il se fait une haute idée. Elle a toujours eu pour moi un parfum d'émancipation, de libération, d'altérité, de projection en dehors de ce soi-même tel qu'il est défini par la famille, l'hérédité et les premières appartenances, écrit-il dans son dernier livre en date, Le goût de la politique, qui va être au cœur de notre conversation. Dans un nouveau numéro d'Idées, donc, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, que vous pouvez aussi écouter sur l'application RFI Puro Radio, le site de la radio, et à la page ID de Facebook, ainsi que sur votre plateforme numérique préférée. Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Je suis ravi de vous inviter dans ce studio, de vous avoir dans cette émission. Observateur passionné, c'est le moins qu'on puisse dire, de la Ve République.
Oui, en effet. La passion était là quand j'étais, au fond, enfant et adolescent. Et la passion est toujours là et je ne suis plus un enfant ni un adolescent. Et au fond, c'est cette interrogation sur l'origine de cette passion qui a suscité ce livre. J'ai décidé dans ce livre sur le goût de la politique de m'exprimer au fond pour la première fois. J'ai publié pas mal de livres.
Mais c'est un livre très personnel,
voilà.
Que celui-là.
Et voilà, j'ai écrit à la première personne. Je parle de moi alors que quand on est universitaire, on a une pudeur qui fait que l'on ne parle pas de soi. On cherche à être le plus loin de son objet en position de surplomb. Non, là, je cherche à tisser deux choses. Une histoire personnelle qui est la mienne et une histoire collective qui est celle de la France des années 50 à aujourd'hui.
Je reprenais des propos de votre livre dans lesquels vous dites que la politique scande votre vie. C'est-à-dire qu'à la limite, vous vous souvenez plus, davantage d'un résultat d'élection que de rendez-vous, de choses très personnelles.
Tout à fait. Et ça m'étonne. Je suis encore étonné aujourd'hui. C'est vrai, quand je me penche sur le passé, et vous savez, on dit 1958, les premiers événements qui viennent spontanément à mon esprit sont des événements politiques. 1971, eh bien voilà, les municipales de mars 1971, 1958 bien sûr, la naissance de la Ve République. Et quelque part, ces événements politiques n'occulte pas complètement, mais mettent au second plan des événements beaucoup plus privés, des disparitions, des naissances, des mariages, des rencontres. Véritablement, oui, mon album personnel est avant tout un album politique.
Pascal Perrineau, nous allons évoquer quelques événements politiques, précisément, avec des souvenirs sonores. Et nous allons commencer avec Charles de Gaulle. Je vais vous laisser deviner la date de ce son, mais je suis sûr que vous allez la retrouver.
Le nécessaire a été fait pour obvier à l'irrémédiable à l'instant même où il allait se produire. Le déchirement de la nation a été de justesse empêché. On a pu sauvegarder la chance ultime de la République. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple.
Alors, Pascal Perrineau, j'attends la réponse.
Voilà, le 4 septembre 1958, place de la République, le général de Gaulle prononce ce discours que j'ai entendu avec mon père, j'étais enfant, et je me souviens encore de cette voix extrêmement forte et de ce personnage qui était en haut d'une tribune avec en bas tous les corps de la République qui étaient là, les soldats en grande tenue, la garde républicaine en grande tenue. Et c'est le discours au fond fondateur de cet extraordinaire moment qu'a été la naissance de la Ve République. Parce qu'il faut se remettre à l'époque. La Quatrième République avait complètement vacillé sur le conflit algérien. On parlait de menaces de coup d'État militaire. La Quatrième République semblait partir complètement à volo. Il n'y avait plus aucun repère. Et tout d'un coup, voilà, l'essentiel de la classe politique se tourne vers ce général de Gaulle qui était réfugié dans sa maison dans l'est de la France. Va le chercher, comme souvent en France d'ailleurs. Quand il y a une crise, on se tourne vers un homme providentiel pour tenter de remettre le pays sur les rails. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le retour du général de Gaulle a été tout à fait spectaculaire et marque d'une certaine manière mon entrée en politique. Je me dis à cette époque, voilà, le pays auquel l'enfant que je suis encore, j'ai 8 ans, appartient, est géré. Il est dans de bonnes mains. Alors, dans de bonnes mains, parce que mon père était gaulliste et je n'étais pas encore dans l'époque où on se posait en s'opposant à l'autorité paternelle. Voilà, il y avait, si vous voulez, une figure tout à fait charismatique qui impressionnait à la fois ses fidèles et ses opposants.
Pascal Perrineau, Charles de Gaulle, que vous avez revu, que vous avez vu en chair et en os, voilà. Un an plus tard, en 1959, dans votre ville de Tours, votre ville de jeunesse. Et là, vous avez vu le Messie. Quasiment.
Voilà, tout à fait. Là, c'était impressionnant parce que le général de Gaulle, en 1959, revient à Tours. Et pour lui, la ville de Tours était extrêmement importante puisque lorsqu'il y avait eu la déroute en 1940, le gouvernement français, dont le général de Gaulle faisait partie en tant que sous-secrétaire d'État, dans un gouvernement qui était dirigé à l'époque par Paul Reynaud, le gouvernement s'était réfugié à Tours avant de se réfugier à Bordeaux et de finir à Bordeaux sous l'autorité du maréchal Pétain. Et là, de Gaulle revient à Tours. Et voilà, de Gaulle devait être extrêmement impressionné de revenir dans cette ville et dans cette préfecture de Tours où le gouvernement s'était réfugié en 1940 et où là, véritablement, la France se défaisait. La France était en lambeaux, les Français étaient sur les routes, fuyaient devant l'avancée allemande. Et de Gaulle revient et mon père m'avait emmené voir le général de Gaulle, voir l'arrivée du général de Gaulle, place de la préfecture où il était accueilli, bien sûr, par le préfet en grand uniforme. Et mon père, qui était un homme discret, qui était professeur d'anglais au lycée Descartes, tout d'un coup se met à crier « Vive de Gaulle !» Et l'enfant que je suis s'est retourné vers lui en disant « J'étais très étonné de cette manifestation en public de mon père. » Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il lui prend ?» Mais j'étais à la fois assez admiratif. Je me disais « Tiens, c'est un homme fait de chair et de sang. » Et de Gaulle, entendant ces personnes qui criaient « Vive de Gaulle !», s'est dirigé vers lui et d'autres d'ailleurs pour leur serrer la main. Et moi, j'étais un petit enfant et je dis dans le livre, d'ailleurs, c'est le jour où je me suis rendu compte ce que c'était que la notion de grande personne. Parce que j'ai vu la main du général de Gaulle passer au-dessus de ma tête pour rencontrer la main de mon père. Et là, j'étais dans un état, non pas d'extase, il ne faut pas exagérer, mais j'étais très impressionné par l'immense silhouette.
Pascal Perrineau, vous avez évoqué le nom du lycée Descartes. Mmh. C'est là que vous avez fait votre scolarité, lycée Descartes de Léopold Sédar Senghor, entre
tout
parenthèses.
À fait. Mon père, en effet, avait connu, d'ailleurs, Léopold Sédar Senghor. Il était resté en correspondance avec celui qui allait devenir l'agrégé de grammaire, qui allait devenir quelques années plus tard le président du Sénégal et qui a écrit ses si beaux poèmes, en particulier Chant d'ombre. Encore la semaine dernière, je relisais Chant d'ombre pour la xième fois. Et quel poème, quel quel poète, vraiment, c'est absolument hallucinant. Et j'ai fait toutes mes études, en effet, dans ce lycée Descartes, qui était un excellent lycée. Et là, bien sûr, j'ai continué à m'intéresser beaucoup à la politique, sous l'influence à la fois de la famille, mais aussi des enseignants que j'avais
dans
ce
lycée. Vous expliquez, par exemple, Pascal Perrineau, que lors des élections de 1965, élection présidentielle, la première élection présidentielle au suffrage universel, vous avez fait le tour de la ville de Tours, précisément, pour suivre tous les meetings.
Voilà, tout à fait. Mes parents étaient très, très pluralistes de culture. C'est-à-dire, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ma mère était de tradition démocrate chrétienne et mon père était de sensibilité gaulliste. Et je leur avais dit, écoutez, à l'époque, j'avais un Solex.
Le fameux Solex qui permettait
la mobilité des jeunes. Et j'avais décidé, je leur avais dit, voilà, je vais aller voir tous les meetings qu'il y a dans la ville. Et donc, sur mon Solex, j'avais été au meeting du Parti communiste, au meeting de François Mitterrand, à celui de Jean-Louis Texier-Vignancourt, qui était le candidat de l'extrême droite de l'époque. De Gaulle ne s'était pas déplacé puisqu'il ne faisait pas campagne. En 1965, j'avais été au meeting de Le Canuet, qui était le candidat centriste. Et là, je me suis frotté véritablement à la politique et j'ai découvert ce qu'était la politique, c'est-à-dire ce souci de l'autre, qu'on soit un militant de la droite extrême, de la gauche extrême, du centre démocrate chrétien, socialiste, etc. Il y avait chez ces militants que je rencontrais pour la première fois le souci de l'autre, le souci d'essayer de penser le bien public. Et ça m'a convaincu qu'il fallait que j'aille plus loin dans mon engagement.
Alors, la Touraine, Tours, ce sont aussi vos années d'adolescence, avec notamment la présence d'une base américaine, enfin d'un centre militaire américain dans la région de Chinon. Et là, chez vous, ça a eu une influence certaine.
Tout à fait. C'est là où on s'aperçoit que les choix politiques sont bricolés, à la fois d'influence familiale, d'influence dans l'éducation, et puis de rencontres dans les régions dans lesquelles vous êtes. Et là, il y avait en effet un immense camp de l'armée américaine qui était le camp de Chinon. Et bien sûr, il y avait énormément de soldats et d'officiers américains. Et j'ai parfait mon anglais en fréquentant beaucoup ces soldats et ces officiers américains. Et j'ai découvert, une certaine phase de l'Amérique, qu'était l'Amérique bon enfant, l'Amérique marquée par aussi la pluralité des origines. Il y avait beaucoup d'officiers, par exemple, qui étaient des officiers blacks américains. Et j'ai passé beaucoup d'heures à discuter avec eux et j'ai formé là, oui, d'une certaine manière, une certaine vision assez atlantiste du monde. C'est-à-dire, je n'ai jamais considéré, je pouvais être très critique, comme l'était le général de Gaulle à son niveau vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, mais je n'ai jamais conçu d'anti-américanisme primaire ou secondaire, d'ailleurs, qui était à l'époque très fort chez les jeunes en particulier proches de la gauche communiste et chez les jeunes proches également de l'extrême droite.
Et c'est l'époque, Pascal Perrineau, où vous avez découvert Elvis Presley.
Et c'est l'époque où je découvre Elvis Presley avec ravissement.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Lock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, 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 Yeah, I wore my blue suede shoe. Well, you can do anything but the deal for my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay home for my blue suede shoes.
Oui, vous écoutez le magazine Idée avec Elvis Presley. C'est une première dans ce magazine grâce à Pascal Perrineau et ce disque d'évidence. Ce morceau, Blue Suede Shoes, vous rappelle des souvenirs à l'appel.
Ça me rappelle des souvenirs à l'appel, en particulier autour de ces maisons d'officiers américains qui ressemblaient aux maisons qu'on rencontre dans les quartiers périphériques des grandes villes américaines. Vous savez, la petite maison sans étage avec le jardin et le gazon parfaitement tondu et le petit carré de piscine bleue et le barbecue. Le barbecue, j'ai mangé...
L'indispensable barbecue
où j'ai dégusté mes premières saucisses grillées américaines. Et on dansait également parce qu'il y avait, en effet, on mettait les rocks d'Elvis Presley et on dansait entre jeunes Français et jeunes Américaines. Et c'était tout de même de grands moments. J'ai un souvenir absolument merveilleux de ces années 60.
Alors, c'était une évocation rapide de votre adolescence, notamment Pascal Perrineau. Il faut lire ce livre, Le goût de la politique, pour en savoir plus. Avançons dans le temps. Comme souvent en France, les provinciaux, entre guillemets, oui, montent à Paris pour leurs études. C'était le cas pour vous, puisque vous avez commencé des études de droit à Tours, il me semble, et vous avez continué à Paris.
Voilà, j'étais, après le bac que je passe en 1968 au lycée Descartes, je choisis le droit, je vais le commencer à la faculté de droit de Tours, mais ensuite j'étais passionné de droit européen et de droit international. Et à l'époque, il n'y avait pas de droit européen en région, et donc je monte à Paris pour suivre, comme on dit, pour suivre les cours d'un professeur extraordinaire qui s'appelait Tedjen, qui avait été un grand ministre de la démocratie chrétienne en France. Pierre-Henri Tedjen, sous la 4e République, et qui enseignait, et qui était un professeur absolument exceptionnel. Et donc, je vais me parfaire ma formation en droit international et droit européen à la faculté de droit. Et en même temps, je vais rencontrer Sciences Po. Je ne connaissais pas Sciences Po, mais j'avais un professeur, Georges Lavaux, qui enseignait à la fois à Sciences Po et en faculté de droit, qui m'avait repéré comme jeune étudiant et qui m'avait dit « Écoutez, Perrineau, vous devriez faire Sciences Po ». J'ai dit « Au fond, pourquoi pas ?» Et voilà, et j'en suis pas sorti depuis.
À propos, oui, on en parlera. À propos de 1968, Pascal Perrineau, vous notez ceci dans votre livre, « Rien n'était à attendre des affaîtris révolutionnaires qui mettaient en pamoison nombre de mes jeunes camarades ». Vous étiez très en recul en 1968.
Oui, j'étais à côté, en effet, parce que autant j'étais attiré par le monde de la réforme politique, autant j'étais extrêmement rétif à l'inflation de discours révolutionnaires auxquels on assistait au lycée, en première année de fac, et qui vantaient les charmes, vous voyez, vantaient les charmes de Mao, de Lénine et de Trotsky. Et je me disais, pour la société post-industrielle qui déjà à l'époque s'inventait, est-ce que véritablement ces rêves révolutionnaires sont adaptés à la société française? Et ma réponse était de manière claire, non. Mais je pensais qu'il était urgent que la société française se réforme. Elle s'était adaptée avec le général de Gaulle de manière formidable au monde économique de l'après-guerre. C'était les fameuses 30 glorieuses, comme on dit, les 30 années glorieuses. Il y avait une croissance du pouvoir d'achat. Le PIB, le produit intérieur brut, ne cessait de se développer. C'était extraordinaire. Mais je me disais, attention, il faut, et 68 a été une sonnerie forte dans ce paysage, il faut que la société française se réforme au plan de ses mœurs, au plan culturel, au plan des rapports sociaux.
Alors justement, à propos de réforme, je vous propose d'écouter une autre voix, alors qu'à l'époque, on reconnaissait tout de suite.
Ah oui.
Écoutons-la.
Il serait illusoire d'affirmer en ces domaines majeurs une telle continuité pleine d'exigences si nous ne dotions pas la France des moyens de réaliser nos raisonnables ambitions.
Alors j'indique aux plus jeunes de nos auditrices et de nos auditeurs qu'il s'agit de la voix de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre en 1969, et on l'écoute en train de présenter son programme dit de la nouvelle société, c'était le 16 septembre 1969.
Ouais. Et c'est un programme, je vous assure, je l'ai relu encore, bien sûr, à l'occasion de la rédaction de ce livre, sur le goût de la politique, mais je l'ai relu encore récemment pour le présenter à mes étudiants il y a une dizaine de jours. Ça n'a pas pris une ride. Vous savez, on dit très souvent aujourd'hui, la politique n'a plus d'ambition, n'a plus de projet. Je dirais presque de la gauche à la droite, lisez ce discours de la nouvelle société, ça vous donnera peut-être des idées pour projeter un projet politique dans l'avenir et un projet politique à dimension humaine. Il ne s'agit pas de rêverie, il ne s'agit pas d'utopie, il s'agit d'abord de développer un diagnostic juste de la société française, de ses limites, de ces inégalités, et à partir de ce diagnostic juste, d'essayer d'engager un processus vigoureux de réforme des rapports sociaux, des rapports culturels, des rapports entre générations et des rapports entre les hommes et les femmes aussi. Tout est là dans ce discours de Jacques Chaban-Delmas qui a été, il n'a pas eu l'occasion de porter, parce que d'abord le président Pompidou qui avait succédé au général de Gaulle l'a écarté, c'est la fin de la présidence Pompidou marquée en particulier par la maladie terrible qui va toucher le président Pompidou, et en 1974 il sera candidat, mais voilà, il n'arrivera qu'en troisième position et donc il ne pourra pas participer au duel qui aura lieu entre Giscard et François Mitterrand.
C'est en gros l'époque, Pascal Perrineau, où là vous hésitez. Voilà. Vous êtes d'abord tellement intéressé par la politique que vous avez envie d'en faire et vous entrez en 1977, il me semble, au Parti Socialiste.
Tout à fait. Parce que je me dis, au fond, cette réforme portée par la droite et le centre, elle ne viendra pas. Jacques Chaban-Delmas a été battu. Mais je reste très attaché à cette nécessité. Je le sens autour de moi en discutant avec mes jeunes amis étudiants, en regardant la société française, simplement. Je me dis, ça doit bouger. Et à ce moment-là, voilà, il y a une réforme aussi qui devient de plus en plus visible. C'est la réforme qui est portée par François Mitterrand, qui prend en main au début des années 70 le Parti Socialiste et qui va organiser la progression du Parti Socialiste, qui en 1978 passe pour la première fois devant le Parti Communiste. Donc la gauche devient une gauche réformiste et non plus une gauche à prétention révolutionnaire. Et à ce moment-là, je me dis au fond, pourquoi pas, comme ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe et en particulier d'Europe du Nord, essayer de soutenir cette procédure de réforme social-démocrate, comme on dit. Et à ce moment-là, j'adhérerai au Parti Socialiste en 1976 et j'y resterai jusqu'en 1981, date de la victoire. Et comme toujours, si vous voulez, les choix politiques sont aussi faits d'affect. Je viendrai au Parti Socialiste au travers d'un homme qui était sénateur de Paris, que je rencontrerai, et qui était un homme absolument étonnant, qui s'appelait Georges Dayan et qui était le meilleur compagnon de François Mitterrand.
Eh bien, plongeons-nous dans cette époque et allons directement au 10 mai 1981, au soir de la victoire de François Mitterrand.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que, dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires. Nous avons tant à faire ensemble. Et tant à dire aussi, des centaines de millions d'hommes sur la terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle. Mesdames et messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. À monsieur Giscard d'Estaing, que je remercie de son message, j'adresse les vœux que je dois à l'homme qui, pendant 7 ans, a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci.
François Mitterrand, quel est maintenant votre programme pour la suite? C'est la première fois que je vois Paris comme ça. Les gens qui se parlent, qui sourient, qui s'embrassent. Bon, bêtement, il y a de la viande saoule, mais... C'est pas mai 68 et c'est pas une victoire de Giscard. C'est autre chose, quelque chose de différent. Où les gens mesurent peut-être pas exactement ce qu'ils font, ce qu'ils disent. On a envie de penser, enfin, moi j'ai pas connu, mais au Paris de 36, enfin, aux vieilles images, aux vieilles chansons populaires, à la vraie fête. La fête pas sordide, pas sanglante, pas d'ivresse. Une espèce de sérénité et de joie simplement chez les gens. Et je trouve ça... J'avoue que je suis très surpris, même un peu ému d'ailleurs. Mais je pense qu'ils... Tous, ils ont dit à Mitterrand, t'as ta chance, la rate pas.
La rose a fleuri sur sa branche, donnant sa pourpre et son parfum. Au soir du deuxième dimanche, du mois de mai 81. Au soir du deuxième dimanche, du mois de mai 81.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes en compagnie de Pascal Perrino. En écoutant François Mitterrand et cet homme qui parle au soir de la victoire de François Mitterrand de sa joie, vous étiez très attentif.
Oui, j'étais très attentif. J'étais très attentif en particulier à un thème qui revient beaucoup dans ce qu'on vient d'entendre dans ce discours de François Mitterrand, c'est celui de la réconciliation. La réconciliation des Français, et comme le dit ensuite un des citoyens qui est interviewé, l'atmosphère de joie et de sérénité tranquille qui a accompagné cette victoire de la gauche. Parce que la grande question dans les années 80, c'était la Ve République. Formidable, ça a apporté des institutions stables, ça a permis le développement économique. Mais voilà, restait une question. Est-ce que la Ve République est faite aussi pour l'opposition de gauche? Et là, en 81, voilà, c'est fait. La Ve République montre toute sa force. Elle peut organiser l'alternance, elle peut faire vivre le pluralisme. Et ça, à l'époque, moi, ça me réjouit qu'il y ait voilà, un pluralisme et que l'opposition, qui était à l'époque une opposition d'union de la gauche, puisse alterner. Il y aura ensuite d'autres alternances par la suite, ce qui prouve le caractère, j'allais dire, fort de ces institutions de la Ve République et leur caractère extrêmement résilient. Ils ont pu s'adapter, ces institutions ont pu s'adapter à des situations très diverses. Et d'ailleurs, François Mitterrand, qui parfois maniait un peu le cynisme, disait, vous savez, parfois, ces institutions, oui. Parfois, et assez souvent même, ces institutions n'étaient pas faites pour moi, le costume n'était pas fait pour moi, mais je m'y sens parfaitement à l'aise. Voilà. Et en effet, il s'est senti parfaitement à l'aise dans ces institutions que quelques années auparavant, il condamnait avec beaucoup de sévérité.
Mais il faut souligner, vous le disiez, la joie de l'époque. Hein. Mmh. Vous avez entendu cet extrait de cette chanson de Jean-Roger Cossimon qui s'intitule « Un soir de mai ». Quand on l'écoute aujourd'hui, on a comme un parfum de nostalgie.
Oui, on a comme un parfum de nostalgie d'une société française qui s'aimait. Qui s'aimait elle-même, alors qu'aujourd'hui on a l'impression parfois que la société française est presque dans une phase de détestation d'elle-même. Il y a un pessimisme dans l'opinion publique française aujourd'hui qui est préoccupant et qui d'ailleurs pose problème au pays pour aller plus loin. À l'époque, ça n'était pas le cas. Il y avait un espoir qui portait l'ensemble de la nation, d'ailleurs ceux qui avaient été battus et ceux qui arrivaient au pouvoir. Mais en ce qui concerne mon histoire personnelle, comment dire, dès le début, je sens que ceux qui arrivent au pouvoir sont un peu des femmes et des hommes pressés. Et qu'au fond...
Pressés souvent de prendre des places.
Voilà, ils cherchent à prendre les places. Et l'ardeur excessive avec lesquelles ces militants qui disaient, voilà, il faut inventer une autre manière de faire vivre la politique, prennent la place des précédents et ne changent pas, au fond, les mœurs d'exercice du pouvoir, ça me déçoit. Et à ce moment-là, je m'éloigne de la politique active. Je pars discrètement sur la pointe des pieds et je me dis vraiment, Pascal, la politique active n'est pas faite pour toi. En revanche, reste en lien avec cette politique pour l'étudier.
Alors justement, là, la recherche, Pascal Perrino, vous écrivez « Le plaisir de l'analyse et de la découverte des clés cachées est essentiel ». Comme l'écrivait en 1930 André Siegfried, qui avait connu dans sa jeunesse les passions de l'engagement politique, puis plus tard les joies plus sereines de l'étude, la volupté de comprendre me paraît aussi belle que l'ivresse de l'action.
Voilà. Et ça, phrase. Si vous voulez, je n'ai pas quitté ce diagnostic d'André Siegfried, qui était un diagnostic, en effet, du début du XXe siècle. Je crois qu'il y a, alors le volupté, le terme est de Siegfried, un plaisir de comprendre, une joie de comprendre, d'éclairer l'obscur, qui est, supérieur pour moi à l'ivresse de l'action, puisque l'ivresse de l'action militante, de l'engagement, des manifestations, des distributions de tracts, des discussions interminables jusqu'à 2h du matin autour d'une table. Tout ça, je les ai connus. Et je crois véritablement que, en revanche, essayer de comprendre ce qui résiste à la compréhension immédiate dans les phénomènes politiques qui nous entourent, y consacrer du temps, le temps de l'analyse, et de l'analyse tranquille et sereine, oui, c'est quelque chose qui est une véritable passion, et cette passion ne m'a pas quitté.
Et notamment, une réflexion, vous menez dès lors une réflexion sur la place de l'individu dans la société. Vous citez beaucoup Karl Popper, le philosophe des sciences, dont le livre « La société ouverte et ses ennemis » vous a marqué.
Ah, tout à fait. Parce que, si vous voulez, je crois, certes, les forces collectives sont à l'œuvre. Bien sûr qu'il y a des déterminations qui pèsent sur les individus que nous sommes. Mais il y a aussi l'exercice de notre liberté. Nous ne sommes pas simplement ce que notre classe sociale, ce que notre environnement culturel, ce que notre héritage en termes régional, les endroits où nous habitons, nous font. Il y a aussi l'exercice de nos libertés à partir de notre réflexion, de nos lectures. Et moi, dans mes lectures, il y a eu cette lecture de cet intellectuel juif qui avait fui le nazisme à partir de l'Autriche, Karl Popper, et qui finira sa carrière en Grande-Bretagne, et qui a été l'auteur d'un livre qui reste encore aujourd'hui tout à fait la société ouverte et ses ennemis.
En deux volumes.
En deux volumes, voilà. Et qui montre très bien que le grand enjeu politique, bien au-delà du clivage gauche-droite, c'est l'attachement que tous les démocrates doivent avoir à une société ouverte, à une société pluraliste, à une société qui respecte les droits des individus face à une menace, à ce que Popper appelle les ennemis de la société ouverte, qui sont au fond les gens qui préconisent une société close, une société communautaire, fermée sur elle-même, une société qui est une société, à l'époque où il l'écrit, c'est dans les années 50, des sociétés totalitaires. Et encore aujourd'hui, vous voyez que c'est la grande question.
Alors, c'est l'époque où vous gravissez une à une les marches de l'enseignement.
Oui.
Vous passez l'agrégation et vous vous spécialisez dès lors dans la recherche en sciences politiques.
Voilà. Je commence d'abord en tant que chercheur à Sciences Po, puis très vite, là aussi, c'est le goût de l'autre. Le goût de la politique, c'est le goût de l'autre. Je me dis, voilà, ces chercheurs qui restent complètement enfermés dans le tout petit monde de la recherche, ça ne me satisfait pas. Et donc, je vais passer l'agrégation pour devenir professeur d'université et pour pouvoir enseigner. Et j'éprouverai, et c'est encore le cas aujourd'hui, une joie profonde à former les jeunes esprits, et en l'occurrence les jeunes esprits, à la science politique. C'est-à-dire à leur apprendre à penser l'objet politique, pas simplement au travers de leurs passions qui sont légitimes, mais aussi au travers de leurs réflexions, de ce que la science politique a pu accumuler au cours de décennies. Au fond, la science politique, elle naît à peu près au début du XXe siècle, elle n'a cessé de se développer depuis. Donc, on sait des choses sur la politique, sur les comportements électoraux, sur les institutions, sur la vie des partis. Et donc, je passerai de nombreuses heures à enseigner, mais l'enseignement n'est vivant que s'il y a de la recherche derrière. Et je continuerai à être un chercheur particulièrement sur la chose électorale. Et je consacrerai, dans la grande tradition de Sciences Po Paris, énormément de livres, d'ouvrages, d'articles à l'analyse des moments électoraux de la démocratie qui restent les moments essentiels.
On va parler de l'extrême droite dans un instant, Pascal Perrineau. Mais puisqu'on parle de Sciences Po, il faut citer la phrase, une phrase d'Émile Boutny, le fondateur de la maison, qui disait qu'il fallait éviter les causeurs et l'esprit orné. Je trouve que l'expression est formidable.
Tout à fait. L'expression est formidable et là aussi n'a pas pris de ride. Si vous voulez, quand Sciences Po se crée en 1872, c'est une école qui va chercher à devenir une école de formation des élites après l'échec de la guerre entre la France et la Prusse. Parce que au fond, Émile Boutmy, qui est le fondateur de Sciences Po, se dit avec toute une partie d'ailleurs de la bourgeoisie protestante française qui va fonder Sciences Po, si la Prusse a gagné, c'est parce que la Prusse avait des élites extrêmement bien formées, ce qui n'est pas le cas et ce qui marque pour eux l'échec de l'université française à former des élites. Et donc Sciences Po naît là-dessus en dénonçant d'une certaine manière ce que peut avoir d'un peu introverti parfois l'université française, pas toujours bien sûr, est ce qu'ils appellent l'esprit orné. Ils considèrent qu'une vraie formation, c'est une formation certes théorique, mais qui ne doit pas tomber dans le bavardage théorique et qui doit aller de pair avec une formation pratique faite par des praticiens.
Nous reparlerons dans un instant de Sciences Po aujourd'hui qui traverse crise sur crise, Pascal Perrino. Mais écoutons une dernière évocation sonore avec la voix de Marine Le Pen. C'est en janvier 2011, lors du congrès de Tours, on y revient, à Tours, qu'il a vu prendre, on s'en souvient, les rênes du Front National devenu Rassemblement National depuis.
Le Front National que je présiderai sera un parti renouvelé, ouvert et efficace. Je me fixe dès à présent pour objectif d'en faire avec vous l'instrument puissant, le plus efficace et le plus performant qui soit dans notre stratégie de conquête du pouvoir.
Suite de ce numéro d'idées consacré au parcours de Pascal Perrino, avec au cœur de notre conversation le goût de la politique. Alors, un de vos signes particuliers, Pascal Perrino, c'est que dès les années 80, vous avez commencé à étudier l'émergence de ce Front National, notamment avec les fameuses élections dans la ville de Dreux.
Tout à fait. En effet, je suis un jeune professeur à Sciences Po Grenoble à l'époque et je suis très attentivement toutes les élections du début de la décennie 80. La gauche vient d'arriver au pouvoir et j'observe dès les années 82-83 des phénomènes qui m'interpellent. Ici et là, dans des environnements urbains plutôt dégradés, touchés par la crise, la désindustrialisation, les phénomènes de délocalisation, les phénomènes d'immigration et de développement de la délinquance aussi, je m'aperçois en effet que des listes, des candidats de cet obscur Front National qui vient de naître en 1972 et qui est complètement marginal. Jean-Marie Le Pen avait fait 0,7% à l'élection présidentielle, moins de 1% à l'élection présidentielle de 1974. Eh bien, contrairement à ce qui se passait en 1974, des candidats du Front National font des scores aux alentours qui vont quelque part, comme à Dreux, entre 8% et 12%. Et je me dis, voilà, attention. Il y a là, certainement, je travaille avec mes étudiants, d'ailleurs, à l'époque, sur certaines de ces communes, et je m'aperçois que, comment dire, il y a des sources profondes qui sont en train de s'établir pour que, au fond, le Front National puisse prospérer. Un malaise urbain, un malaise social, des problèmes d'identité, comme on dit aujourd'hui, qui commencent à se faire jour. Et je me dis ça, la crise économique et sociale est telle qu'on ne va pas résoudre cette équation rapidement. Et donc, je me dis, le Front National a un avenir politique et électorale devant lui. Et je me mets, c'est les premiers articles que je vais sortir sont au milieu des années 80 sur le sujet. Et je n'ai pas quitté le sujet depuis. Est-ce que j'aurais imaginé, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le Rassemblement National soit le premier parti français.
40 ans après.
Voilà, 40 ans après. Peut-être pas, mais je savais qu'en tout cas, on allait cesser d'en parler.
Pascal Perrino, votre livre est aussi un livre de réflexion sur la politique et notamment sur les rapports entre la science politique et les spécialistes de l'opinion. Là, vous avez des pages assez tranchantes sur la question et vous écrivez par exemple ceci. L'allergie forte que ressent toute une partie du milieu de la science politique par rapport à la mutation de l'espace démocratique que le philosophe Bernard Manin a décrit comme étant l'émergence dans les années 70 d'une démocratie du public, où l'électorat est devenu un public et le vote une réaction de ce public à ce qui est formulé et proposé par des acteurs politiques rivaux utilisant techniques de la communication, sondages et stratégies. Et vous étudiez justement cet antagonisme, je ne vais pas parler de haine, mais enfin cette aversion quand même, entre la science politique et ceux qui étudient l'opinion.
Et c'est là où, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, si vous voulez, l'université peut être parfois à côté de la plaque. Elle refuse de comprendre ce qui change, ce qui inévitablement change sur la scène politique. En effet, la scène politique était marquée par, pendant de nombreuses décennies, par le poids des grands partis de masse, par le poids des classes sociales, etc. Mais c'est vrai qu'à partir des années 60-70, ça change. Et que l'on arrive vers ce que le philosophe Bernard Manin appelle la démocratie du public, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle les grands partis rentrent en crise et même disparaissent, comme aujourd'hui, regardez. Le destin du Parti socialiste ou des Républicains, dans lequel les techniques de communication ne cessent de se développer, que ce soit sur le web ou en dehors du web. Et c'est également un paysage politique nouveau dans lequel l'électeur est de plus en plus comme un consommateur sur un marché. Hein, qui va en
une
effet,
offre politique,
voilà,
ouais.
qui va répondre à l'offre politique, qui va changer. C'est ce qu'on appelle la fameuse volatilité électorale. Regardez le phénomène, par exemple, de naissance du macronisme en 2017. Ça naît de rien et tout d'un coup, ça va devenir le parti essentiel de la vie politique française. Regardez, on a parlé du Front National. Le Front National n'était rien au début des années 80. C'est la première force politique et électorale à quelques encablures des prochaines élections européennes. Tout ça, c'est le fruit aussi de citoyens, d'électeurs qui sont quelque peu déboussolés et qui sont de plus en plus volatiles et de moins en moins captés de manière durable par les grandes forces politiques. Oui, l'électeur français est devenu infidèle.
Et vous interrogez aussi sur la capacité des hommes politiques aujourd'hui à affronter le monde tel qu'il est. Et vous évoquez notamment ce qu'on appelle en général le retour du tragique. Ce retour du tragique dont le siècle ne s'adresse pas à des hommes éduqués au tragique et l'ayant connu dans leur expérience la plus intime.
Tout à fait. On est en train, et là, c'est véritablement depuis maintenant l'agression de l'Ukraine par l'URSS, par la Russie, excusez-moi, les vieux réflexes
c'est intéressant.
Sont là, voilà. Eh bien, on s'aperçoit en effet de, comment dire, du retour du tragique au travers de la guerre. La guerre est devenue, il suffit de regarder aujourd'hui les enquêtes, la guerre est devenue un horizon tout à fait possible pour les jeunes Français, les jeunes Allemands, etc. Et donc, en effet, les hommes politiques, et en particulier la jeune classe politique, n'a pas réussi à penser ce retour du tragique et ce retour de la guerre. Et ça explique certainement le relatif flottement que l'on connaît dans de nombreuses classes politiques européennes. Alors qu'au fond, avec De Gaulle, avec Georges Pompidou, avec Giscard, avec François Mitterrand, et même d'une certaine manière avec Jacques Chirac, qui avait connu la guerre au travers de la guerre d'Algérie, et il y avait des hommes qui connaissaient les fracas de la guerre, les blessures de la guerre, et qui géraient le pays en ayant ça en tête. Depuis Nicolas Sarkozy, suivi ensuite par François Hollande et l'actuel président Emmanuel Macron, on voit qu'on est rentré dans une autre génération. Quand Emmanuel Macron parle du tragique, il en parle essentiellement de manière littéraire, mais on ne peut pas d'ailleurs lui jeter la pierre. C'est un homme, en effet, qui n'a pas connu ce tragique et qui, aujourd'hui, en tant que dirigeant d'une grande démocratie européenne, est confronté tous les jours à ce tragique.
Pascal Perrineau, nous évoquions tout à l'heure sciences politiques, Sciences Po, il faut parler de la crise, des crises que traverse cette école, et par ricochet, parler de ce que l'on appelle aujourd'hui le wokisme. On y met beaucoup de choses dans ce mot-là, mais vous êtes bien placé pour voir l'évolution de la société à la fois comme chercheur enseignant à Sciences Po et comme enseignant également aux États-Unis.
En effet, si vous voulez, on disait le monde change, la politique doit changer. Le monde change, les établissements d'enseignement supérieur doivent changer. Et Sciences Po, bien sûr, a connu, en particulier dans les années 90, de grands changements en s'internationalisant, en s'ouvrant au monde, en concevant en effet des politiques d'échange systématiques pour nos étudiants entre Sciences Po Paris et de multiples universités partenaires. C'est très bien. Mais, comme toujours, les processus vertueux ont leur envers. Et au travers de cette internationalisation sont venues des idées venues d'outre-Atlantique, et en particulier ce qu'on appelle outre-Atlantique le wokisme. Alors, pour le définir de la manière la plus rapide, le wokisme, ça, c'est le fait d'être éveillé à toutes les inégalités, quelles qu'elles soient. Et pas simplement les inégalités sociales, mais aussi les inégalités de genre, les inégalités de race, les inégalités liées au poids des individus, à leur allure physique, etc. Et comme j'enseigne depuis plus de 15 ans aux États-Unis pendant 2 mois tous les étés, j'ai vu monter ce wokisme aux États-Unis. Alors au départ, j'allais dire, c'était très bien. Ça permettait de rééquilibrer les parts entre hommes et femmes et de faire entrer, en effet, des représentants des minorités, et en particulier de la minorité noire, dans ce qu'on a appelé la discrimination positive, dans les universités. Très bien. Mais aujourd'hui, c'est allé beaucoup plus loin. C'est allé beaucoup plus loin. Et par exemple, quand je vais aux États-Unis, je passe, là j'y retourne dans quelques semaines, je vais repasser un examen qui va vérifier si je suis correct sur le terrain des violences sexistes et sexuelles, sur le terrain de ce qu'ils appellent les micro-agressions vis-à-vis des gens simplement qui sont différents de moi, de par l'âge, de par la race, de par le poids, etc. On parle de grossophobie, vous voyez, hein, bon. Et donc, ça vous donne l'impression d'une société qui est littéralement fragmentée. Chacun est renvoyé à ses appartenances communautaires.
Et hein, c'est un peu la lutte de tous contre tous.
De tous contre tous. Oui. Et la méfiance est là. C'est une société de la méfiance totale. Parce que les communautés vont se réunir entre elles. Par exemple, il y a des communautés réservées aux hommes, des communautés réservées aux femmes, des communautés réservées aux blacks, des communautés réservées aux blancs, dits caucasiens aux États-Unis. Oui. Moi, personnellement, l'universaliste français que je suis accepte, parce que bon, c'est comme ça aux États-Unis, mais je me dis que ça n'est vraiment pas fait pour notre pays. Parce que ça va peu à peu développer dans une société française qui est déjà extrêmement méfiante, énormément de fragmentation sociale, culturelle, ethnique, et ça va mettre à mal notre modèle républicain.
Et Sciences Po est en crise à cause de ça, notamment. Pascal Perrineau, une dernière question rapide. Vous parlez de l'avenir de la politique. On a du mal à l'envisager aujourd'hui, oui. Cette politique est rejetée.
Oui. Alors, si vous voulez, l'avenir de la politique, je décris dans ce livre sur le goût de la politique.
Retrouver le goût de la politique.
Retrouver le goût de la politique. Comment le retrouver ? Parce que le grand danger, c'est de s'en retirer. C'est la montée de l'abstentionnisme, c'est les développements de haine de la politique, qu'on a bien vu dans des mouvements, par exemple, comme le mouvement des Gilets jaunes. Si on veut réaimer la politique, je crois, je dresse très rapidement dans ce livre 3 pistes. D'abord, il faut rééquilibrer nos institutions. Nos institutions sont trop présidentialisées. Il faut les rééquilibrer du côté parlementaire. Bon, et ça, il y a différentes réformes sur lesquelles les juristes réfléchissent. Deuxièmement, les Français ne se contentent plus de dire leur mot en politique tous les 5 ans à l'occasion de l'élection présidentielle. Il y a ce qu'on appelle une démocratie continue. Et la meilleure manière de faire vivre la démocratie continue, c'est la démocratie participative. Avec parfois des maladresses, le président de la République s'y prête aujourd'hui. Et puis, la troisième voie, c'est de réhabiliter, quand il y a un problème lourd, la consultation directe du peuple par le référendum.
Ce qui se faisait au début de la 5e
République. Ce qui se faisait, le général de Gaulle n'hésitait pas. Et même, il part à la suite d'un référendum où le peuple français lui dit non.
Merci Pascal Perrineau pour votre enthousiasme, pour votre passion de la politique si rare aujourd'hui. Et je conseille donc ce livre qui s'intitule Le goût de la politique, un observateur passionné de la 5e République, un livre publié aux éditions Odile Jacob. Merci.
Merci à vous.
Idée réalisée par Tiffany Menta. Retrouvez Idée donc sur l'application RFI Pure Radio, le site de la radio ou bien votre plateforme numérique préférée ou à la page Idée de Facebook. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI, bien sûr.